Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, la France aime célébrer chaque année, dans une semaine de la francophonie, la langue française et aussi sa littérature. Elles sont toujours à l'honneur, Canal Académie s'en réjouit, d'autant plus que dans notre émission d'aujourd'hui, au fil des pages, nous recevons l'une des plus éminentes figures de l'étude et de l'histoire de la langue et des lettres françaises, Monsieur Gérald Antoine, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur Antoine, bonjour.
Bonjour, chère Hélène Renard. Je me permets de vous dire, chère Hélène Renard, parce que nous nous connaissons depuis pas mal de temps déjà.
Mais ça me fait très plaisir. Merci. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission qui, je le pressens, va être beaucoup trop brève pour aborder toutes les questions sur lesquelles nous aimerions vous entendre. Je voudrais rappeler d'abord brièvement les principales étapes de votre carrière. En 1954, vous avez été élu à la Sorbonne à la chaire d'histoire de la langue française.
C'est vrai.
Durant une vingtaine d'années, vous avez été appelé par plusieurs ministères comme conseiller chargé de mission des ministères d'éducation nationale, des ministères de la recherche, de l'enseignement supérieur. Enfin, beaucoup de ministères ont fait appel à vos compétences. Et vous avez fondé les universités d'Orléans et de Tours. Voilà. Gérald Antoine, j'aimerais vous poser une première question à propos du fauteuil que vous occupez à l'Académie des sciences morales et politiques. Pourquoi un agrégé de grammaire, docteur ès lettres, professeur de l'histoire de la langue française, siège-t-il dans la section morale et sociologie ? Autrement dit, l'histoire de la langue est-elle une discipline de sociologie ?
Le hasard. Et là, il a joué assez pleinement son rôle et une façon qui m'émeut. Rien ne me laissait penser que je serais appelé à succéder à mon très cher ami et exact contemporain, à 15 jours près. Alors, pour répondre de droit fil à votre question, il y a une tradition non écrite, je crois, dans cette maison, l'Académie des sciences morales et politiques, qui veut que 2 fauteuils sur 50 soient réservés à des, mettez tous les guillemets que vous voudrez, des littéraires. Mais je suis content pour l'institution elle-même, car enfin, avoir une Académie des sciences morales et politiques où il n'y aurait pas un seul grammairien ou linguiste ou philologue, appelez-le comme vous voulez, ça me paraît être un non-sens. Car enfin, les idées, qu'elles soient morales, politiques ou autres d'ailleurs, elles n'existent que pour autant qu'elles empruntent, qu'elles utilisent un langage. La bonne manière de faire de soigneuses politiques et d'heureuses et vertueuses, c'est de savoir le sens des mots que l'on emploie pour désigner des réalités tant morales que politiques. Par conséquent, il me paraît tout à fait naturel, j'allais dire logique, que la grammaire soit présente dans cette académie. Or, le hasard, je reprends mon mot de tout à l'heure, le hasard fait que c'est la première fois que dans cette académie, effectivement, figure un grammairien d'origine.
Quel est le lien entre les problèmes de société et l'examen de la langue ?
Et alors, puisque vous évoquez cette chaire d'histoire de la langue que j'ai eu l'honneur d'occuper pendant presque 30 ans, je vous apprendrai quelque chose, si vous permettez, chère Hélène Renard. Mon illustre antéprédécesseur, Ferdinand Bruno, d'ailleurs mon compatriote vosgien, ça me touche beaucoup. Ferdinand Bruno a été le créateur de cette chaire en 1901, au début du XXe siècle.
À la Sorbonne, donc.
À la Sorbonne. Et c'est lui qui a réalisé toute une pédantise,
oui, en parlait tout à l'heure.
Eh bien, il est arrivé à Ferdinand Bruno quelque chose qui est, à mon sens, tout à fait éclairant et de nature à répondre exactement à la question que vous posiez. Dans les premiers tomes, il a commencé par le Moyen-Âge, bien sûr, c'est le tome 1, et puis il a continué par la Renaissance, c'est le tome 2, puis il a poursuivi par l'âge classique, l'âge préclassique, puis l'âge classique. Alors, pendant tout ce temps-là, et ça a duré des années, il s'est comporté au sens étroit, en historien de la langue, et il a étudié de moment en moment, d'époque en époque, de période en période plutôt. Langue, comme telle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une langue ? Bon, c'est un total, une somme de moyens d'expression mis à la disposition d'une collectivité. Là, je vous rejoins, vous voyez, je commence. Mais revenons à Ferdinand Bruno. Il se disait, bon, je vais décrire la phonétique de cette langue qui a évolué considérablement depuis ses origines, depuis les serments de Strasbourg de 1842, à travers ce qu'on appelle le Moyen-Âge, puis la Renaissance, puis la suite. Alors, je vais donc étudier, de moment en moment, l'évolution de sa phonétique, de sa morphologie, de sa syntaxe, et de ce que nous appellerons, si vous voulez, la rhétorique. Ça marchait, et il était satisfait de soi, et il avait raison, jusqu'au XVIIe siècle, en gros. Et puis cet homme, qui par sa nature, sa formation, son idéologie, était un homme passionné par la Révolution. Abordant le XVIIIe siècle, s'est dit « Ah, mais il y a quelque chose qui ne va plus là. Je ne peux pas continuer à traiter de la langue en soi et pour soi comme je l'ai fait jusqu'à présent. »
Donc le XVIIIe siècle a fait frontière,
différence. C'est le XVIIIe siècle qui a pour lui été un révélateur de ce que vous avez, vous, fine mouche du premier coup, pensé. Il s'est dit « Non. » Je ne peux plus continuer à traiter de la langue toute seule. Elle est l'expression d'une société. Et il a dit, d'une façon plus précise, d'une collectivité nationale, mais aussi de groupes sociaux et aussi d'individus typés. Il y a des catégories d'individus. Il y a des chercheurs, il y a des non-chercheurs, il y a des industriels, il y a des commerçants, il y a des ouvriers, il y a des paysans, etc., etc. Il faut dire que dans le même temps, d'ailleurs, là aussi le hasard fait bien les choses, il avait conçu un énorme volume dont on parle peu maintenant, qui à mes yeux est très important, qui s'appelle « La pensée et la langue ». Et il s'est dit « Ah mais en tant qu'historien de la langue, je ne peux éviter de faire ce qu'il a appelé de lui-même. » Alors là, j'ai son texte sous les yeux.
Lisez-le nous, s'il vous plaît.
Vous voulez bien
donc,
que je lise.
Le texte de Ferdinand Bruno.
Ça se trouve dans la préface du tome 7 de son Histoire de la langue, tome 7 ouvrant le XVIIIe siècle. « Il va sans dire qu'obligé de me créer de toute pièce une méthode pour cette philologie sociologique. » Ce mot, à mes yeux, a une importance capitale. Car la suite du texte, je ne vais pas vous ennuyer avec des lectures, révèle que il reconnaît donc qu'il est obligé de fabriquer de toutes pièces, comme il dit, une méthode pour cette philologie sociologique. Aujourd'hui, nous jouons d'un vocabulaire plus distingué, nous parlons de sociolinguistique.
Mais c'est la
c'est
même
la
chose.
Même chose à l'envers.
Oui, oui.
Il ajoute. Oui, écoutez, soyons simples, je ne peux pas me flatter de connaître tout de la vie au XVIIIe siècle français, de chaque ville, de chaque village, de chaque groupe social. Ça, c'est l'affaire des historiens. Le jour où ils voudront bien s'intéresser à ce domaine, alors je leur cède la place. Autrement dit, chère Hélène Renard, ne pas tirer la couverture du côté des grammairiens et des historiens de la langue, mais je suis obligé de vous dire, c'est peut-être un scoop que nous faisons là. On parle beaucoup, c'est écrit dans tous les livres, dans tous les manuels, et la France est très fière d'avoir créé l'école des annales, c'est-à-dire l'école qui a changé l'histoire événementielle en une histoire des sociétés. Eh bien, en vérité, le premier à avoir songé à cette perspective d'une nouvelle histoire, c'est l'historien de la langue qui était Ferdinand Bruno.
Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne. Les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio Canal Académie.
Gérald Antoine, vous occupez le fauteuil, vous l'avez dit tout à l'heure, de Pierre-Georges Castex, que toute une génération de Français, disons ceux des années 50, 60, 70, 80, malheureusement pas après, connaissent bien pour être l'auteur du très célèbre Manuel des études littéraires et françaises, et je vous le montre pendant, mais vous le connaissez mieux que moi pendant que je vous dis ce titre, Manuel des études littéraires et françaises, que nous appelons tous le Castex et Surer. Alors, quand je dis ça, vous dites tout de suite, mais on oublie Becker.
Oh, écoutez, alors là, je fais un peu d'égocentrisme, mais bon, non, il faut être juste, puisque nous parlons d'histoire. En effet, un jour où j'ai eu le plaisir de vous retrouver, vous m'avez parlé du Castex et Surer, et d'entrée de jeu, je vous ai dit, ah, n'oubliez pas Becker. Il faut dire que Becker était un camarade de captivité.
Or, oui, qui est mort en camp de concentration, je crois.
Et oui, il est mort prématurément. C'était un homme d'une très grande qualité. D'ailleurs, Castex avait un sens de la psychologie et du travail en équipe. Il savait très bien à qui il s'adressait quand il demandait à quelqu'un ou à quelqu'une de l'aider dans une entreprise qu'il avait lancée. Donc Becker, comme Surer, était un homme
des amis
du premier rang. Et Becker était un médiéviste, enfin il n'est pas seulement un médiéviste, mais Castex n'était pas un médiéviste, et il s'est dit, tiens, il m'en faut un, il a trouvé Becker. Disons que Becker a travaillé essentiellement dans l'ordre de la chronologie de l'histoire, sur le Moyen-Âge, et il a participé
aux deux
suivants. Alors vous avez raison, ça a été toute une époque qui a été la vôtre. Et alors je peux vous dire que les professeurs, comme toutes autres catégories sociales, ont leurs habitudes, j'allais dire leurs manies. Non, laissons le mot habitude qui est plus noble. Alors ces habitudes font que chaque génération d'élèves reçoit entre ses mains depuis le 19e siècle, un manuel de base, manuel de synthèse, si vous voulez, du savoir. Et alors, ça va de génération en génération. Alors, celui qui vous parle...
Oui, quel manuel ?
Lui a vécu avec un manuel, alors que j'ai pratiqué comme élève et comme jeune professeur, car j'ai été professeur de lycée pendant 4 ans à Vendôme. Et j'avais recommandé à mes élèves quoi ? Oui. Le Chevalier et Odia.
C'est toujours des tandems. Alors là,
c'est toujours des tandems.
Ça
s'explique très bien. Parce que vous savez, c'est une tâche énorme. Et il est bon d'être deux, voire trois.
Donc on a eu alors le Chevalier.
Alors Chevalier, parce que ça s'écrit C-H-E-V-A-I-2-L-I-E-R.
Et Odia.
Alors Chevalier a été mon maître en Cagne à Henri IV. Il est devenu inspecteur général. Alors du jour où vous êtes inspecteur général ou inspectrice générale, vous avez envie de faire des manuels. Et quand vous vous promenez de classe en classe pour observer la manière dont s'acquittent de leur rôle les professeurs, sans même que vous ayez besoin de leur dire, ces professeurs, conseillent à leurs élèves, par hasard, le manuel
de l'inspecteur.
Mais alors, encore une fois, ça vaut pour une génération, et la génération d'après se découvre de nouveaux maîtres. Après Castex et Surer, alors nous nous rapprochons de l'âge présent, il y a Pierre Clarac, qui a été inspecteur général et qui a été secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, et qui a été mon examinateur à l'agrégation de grammaire. Eh bien, il a fait un 16e siècle avec votre serviteur et un troisième homme, Robert Léon Wagner. Si bien qu'il y a un Clarac Wagner Antoine, 16e siècle, paru chez Belin, et qui a fait florès pendant deux décennies, peut-être trois décennies. Maintenant, la main est passée à des suivants.
Bien, Gérald Antoine, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission, ou en tout cas de l'avoir animée, parce que je vous ai écouté avec plus de bonheur que je n'ai pu
vous poser de questions.
Écouté,
si. J'espère.
Je reprécise donc que ce dernier tome qui vient de sortir, qui couvre l'histoire de la langue française des années 1945 à 2000, est publié par les éditions du CNRS. Dans une prochaine émission, nous retrouverons avec autant de plaisir Gérald Antoine pour évoquer avec lui l'œuvre de Paul Claudel. Je vous donne donc rendez-vous à très bientôt.